All right, on est en onde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Donc ici Monsieur Mahjong, Loïc Roberge, comme vous pouvez aussi m'appeler. Puis aujourd'hui, je suis avec Lorenzo Desrosiers, qui est un des joueurs du club de Richie de Montréal. Bienvenue Lorenzo.
Bienvenue, merci beaucoup.
Yes.
Bonsoir.
Fait que parle-nous un peu de toi, Lorenzo. Ça fait quand même, t'as rejoint le club de Montréal il y a longtemps, mais t'as arrêté puis t'es revenu encore après si je ne m'abuse. Peux-tu parler un petit
Oui,
peu de
ça
ça?
fait maintenant, je pense, une dizaine d'années que je dois jouer au Mahjong. Quand j'ai commencé, j'avais seulement 18 ans. J'avais encore beaucoup de misère à peut-être lire les signes chinois qu'il y avait par-dessus, de compter de 1 à 9. Si j'y repense, c'était aussi de devoir calculer des stratégies. Mais depuis, après, il y a eu comme une phase où je suis allé dans un club, j'ai constamment joué sur Internet. Quand je suis revenu, c'est là qu'on s'est rencontrés, 10 ans plus tard, à peu
Ouais,
près.
c'est ça, là.
Et
Ça, les temps changent, là, comme
étonnamment,
on dit, là.
ouais,
Ouais. Non,
ça a vraiment
mais.
été impressionnant.
Ouais, mais c'est fou pareil, là, comment que. Tu sais, le club a changé pas mal en 10 ans aussi, là. Tu sais, toi, à l'époque, c'était. Il y avait encore Walter, puis. Enfin, il y avait quelques personnes de l'édition actuelle qui étaient là, Patrick, Olivier, Sean, j'imagine aussi, mais.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est resté là à ce moment-là, là. Ah, c'est le fun un petit peu d'avoir comme un snapshot à l'époque puis d'avoir la situation actuelle aujourd'hui, là. Toi, comment tu qualifierais ta stratégie comme telle?
De Mahjong, ma stratégie de Mahjong, je verrais ça d'une certaine manière où un peu plus, comment dire, une politique de Mahjong dans le fond. Je vais toujours essayer de voir le statut de chacun des joueurs pour savoir comment ma manière de jouer peut influencer les autres joueurs. Et parfois aussi leur humeur peut influencer leur type de jeu pour prendre soit avantage ou désavantage de ces moments-là.
Ouais, c'est fair. C'est intéressant là, quand même comme approche. Là. Je pense qu'à Montréal, on a beaucoup tendance à faire ça, là, t'sais, de voir un petit peu nos adversaires, puis d'essayer pas forcément de les intimider, mais de faire peur un petit peu, puis de pousser le morceau pour pouvoir aller chercher le run quand il le faut.
Mais je le
Puis.
vois presque aussi comme dans le fond, une manière où des fois, au lieu de juste jouer défensivement, je vais jouer d'une manière défensive où je vais chercher à faire jouer, à faire gagner peut-être le dealer pour continuer les run-chan, pour avoir des run-chan, puis ainsi avoir une chance de pouvoir take over après si j'ai des chances d'avoir un handyman. Juste un
Ouais,
mangan qui va bien passer.
c'est ça là. C'est intéressant quand même comme approche là, parce que c'est oui effectivement plus que tu laisses le dealer gagner plus que la game va se tarder aussi dans le temps. Mais à l'inverse, c'est sûr que ça peut être un couteau à double tranchant, je pense, parce que le
Exact.
dealer gagne quand même plus que les autres, là,
Ouais.
avec vu que ses points font fois 1,5 comme tel. Mais ouais, je pense que c'est intéressant. Puis juste d'approcher ça de cette façon-là, ça peut ça t'a donné quand même des bons résultats à date, là. C'est comme toi, entre autres, tu avais gagné première place à Montréal.
Oui.
Pas l'an dernier, mais l'autre d'avant, comme tel en
Ouais, il y a
2018.
2 ans. J'ai vraiment été impressionné sur le coup. Je m'attendais pas tant à gagner, mais la première journée, j'avais réussi à ramasser beaucoup de points qui m'avaient mis en tête. Puis la deuxième journée, j'ai joué un peu plus défensivement, puis ça m'a permis de gagner. C'est dans la vie, je suis pas quelqu'un qui a l'impression qu'il gagne souvent des concours, des compétitions. Puis là, c'était comme une de ces fois-là sur 1000 où je gagne. Oh, j'ai gagné quelque chose!
Ouais, non,
Yes!
c'est le fun. J'espère que tu gardes ton trophée en quelque part de beau, puis tu l'exposes, puis tout ça. Comme
Ouais,
ça, tes colocs peuvvent le voir là aussi,
c'est dans ma chambre en ce moment, mais je pourrais
là.
l'afficher quelque part dans le
Tu vas le mettre
salon.
par-dessus la TV,
Ouais.
là. Moi, le mien, il est dans le salon ici, là. Yes, hey, c'est fou pareil. Là. Ça change quand même la donne une victoire. Là. Ça, c'est de gagner en tournoi. Là. Tu te dis, hey, il me semble que je suis quand même bon joueur, peut-être, mais il n'y a pas. Avant une victoire en tournoi, tu n'as pas vraiment une consécration comme telle que tu es effectivement bon ou pas. Tu peux avoir comme une idée là, comme telle, mais.
Il y a tellement de côtés de chance que des fois tu te demandes est-ce que c'est juste parce que cette fois j'ai été chanceux, mais en même temps c'est sûr qu'il y a une certaine partie de skill à ce moment-là ou de performance qui t'a permis de te rendre à cette situation-là.
Mm-hmm. Ouais, effectivement. Là. Puis, en quelque part dans un tournoi, oui, je suis d'accord que. Bon, on dit souvent que dans les tournois, il y a quand même une assez forte variance, justement à cause de cet aspect-là, chance qui est. Qui est un petit peu inhérent à la nature d'un tournoi. Mais c'est certain que, tu sais, quand plus que tu gagnes du skill, plus que tu vas être capable de faire ta chance aussi. Puis ça, je pense que c'est quand même assez important au Mahjong. Tu sais, le plus que tu fais ta chance, puis le plus que tu as des chances de l'avoir, là.
C'est ça qui fait que c'est impressionnant. Après, tu sais, quand tu as gagné ton tournoi, on s'entend qu'on était combien? 60? C'était
60? 51. 51? Ouais, à Rochester.
Là. Ça veut dire que sur toutes les phases préliminaires et les phases de tournoi, tu as été capable d'avancer, d'aller avec le flot de la chance, puis te rendre jusqu'en table finale. Et on s'entend, ouais. La table finale, tu l'as pas simplement défendu ta place. Je pense que tu as activement pris la place et le trophée.
C'est ça, là. j'étais allé le chercher. Je me suis assuré de l'avoir, là. Puis je pense que j'ai. Ouais. C'est sûr que j'aime dire que j'ai eu de la chance, mais c'est ça le Mahjong aussi. C'est de la chance pas mal, là.
Ouais.
Puis non, c'est ça. Je pense qu'en quelque part. C'est intéressant. Là, dans mon tournoi, j'ai eu des hauts et des bas. Puis, je pense que je me souviens encore comme si c'était hier. Ben, si c'était au début de la pandémie, fait que c'est quasiment hier en termes pratiques. Mais non, c'est ça. J'ai premier Anshan, première main, premier jeu. Je déline dans un Hanuman Dealer. Fait que je perds 18 000 points en partant. Puis je me suis dit, bon, je veux juste remonter à partir de là.
Ouais.
Puis je l'ai fait. J'ai réussi. Là. Puis je pense que c'est ça. Là. Enfin, pas tant que, c'était sûr que ça allait arriver, mais je pense que mon style de jeu fait en sorte que maintenant, je prends un petit peu plus de risques, puis j'essaie d'être agressif plus souvent. Puis je pense que ça paye. T'sais, oui, je vais faire des deal-ins plus fréquemment aussi, mais je vais aussi gagner plus fréquemment. Fait que c'est un petit peu un équilibre à ce moment-là à aller chercher. Puis je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, ça, effectivement.
Ouais, tu sais, à mon avis, si tu payes des points, le but, c'est de rester en premier. Fait que, tu sais, des fois, quand tu vas donner des points à quelqu'un, j'ai remarqué, on dirait que ça va comme le nourrir d'endorphine ou ça va lui faire baisser sa garde. Fait que parfois, c'est comme le meilleur moment après de reprendre position puis de se remettre à gagner les points qu'on a perdus. Puis nous, en tant que personne, quand tu perds des points, en tout cas, t'es comme motivé à dire genre, ben là, il faut que je les rattrape.
Ouais, non, c'est ça. Parce que tu dis, faut que je remonte un petit peu. faut que je garde le cap vers une position gagnante. Ça. Fait que, t'sais, oui, c'est sûr qu'on va toujours essayer de remonter un petit peu, mais c'est pas. T'sais, c'est pas une garantie non plus. Là. Ça se peut très bien que chaque main est indépendante, tant qu'à moi. Ben, je sais que t'es pas forcément d'accord avec ça, là, mais on va y revenir. Là, avec le flow.
Le flow?
T'sais, le flow d'une main à l'autre. Là, parce que je pense que d'une main à l'autre, personnellement, chaque main est différente. Parce que chaque high-pay que tu reçois, chaque main de départ que tu reçois va être différente aussi.
Ouais.
Tu vas avoir une probabilité différente selon ce que tu pognes pour gagner ou pas. Mais c'est toujours le fun de penser à ça. Puis c'est sûr que quand ta main de départ est tempai sur un Yakuman, ça fait toujours plaisir. Hein?
Ouais, exact.
Fait que Non, c'est ça, là. Dans les tournois comme tel, ça a été lequel ton préféré là, comme tel? Je sais que tu en as fait plusieurs. Montréal, Rochester, Salt Lake.
Je dirais que dans les trois, j'ai bien aimé Montréal, mais j'avoue que le feeling de Rochester est très convivial. On a un haut niveau aussi. Il y a beaucoup de joueurs.
C'est ça, c'est un des tournois majeurs sur la côte est, comme tel, des États-Unis. Comme là, on a eu quand même du bon reach. Il y avait du monde, non seulement nous autres de Montréal, mais du monde de New York, Rochester même, de la région de Buffalo avec Lockport, mais aussi du monde de Columbus, de Baltimore, de Philadelphie. Donc, tu sais, c'est un tournoi qui est vraiment rassembleur comme tel. Puis, c'est un événement, c'est un happening. Puis, je pense que le monde sont toujours bien excités de participer à ce tournoi-là. Là. Surtout que en termes de tournoi sur la côte est, à part peut-être du NA Open qui a eu lieu en 2018, c'est pas mal le plus gros tournoi que j'ai vu ou dont j'ai eu la connaissance au moins. Là. Fait que non, c'est sûr que...
C'est vraiment le fun de voir.
Ah, vas-y.
C'est vraiment le fun de voir plusieurs clubs ensemble.
Ouais.
Ça faisait quasiment comme un tournoi, un team battle de Mahjong en même temps. Parce que là, ouais. T'es coéquipier où tu regardes un peu, il se place où. T'avais toi et Anne qui était clairement... qui avait un bon momentum et qui avançait tranquillement dans les échelons.
Ouais.
Moi, puis Sean.
Ouais, t'as dit Anne, mais tu voulais dire Sean. Mais ça rime, fait que c'est correct. Ben, Anne, c'est quand même bien classé malgré tout. Je pense que t'es dans la.
T'es mieux classé que moi dans ce tournoi-là. Mm-hmm. Je pense que j'ai baissé ma garde à chaque fois. J'étais premier dans la plupart de mes mains jusqu'à temps qu'à la fin, pour une raison quelconque, je baissais ma garde. Puis après, je dilais dans un Hanneman qui faisait que je me passais troisième.
Ouais, non, c'est ça, ça fait une grosse différence, que tu le veuilles ou non. Puis, c'est sûr que quand tu n'es pas vigilant, c'est ça qui arrive en tournoi aussi. Quand quelqu'un est plus vigilant que toi, il va attaquer, puis il va aller chercher les points que toi, tu vas laisser de côté. Là. Fait que, non, c'est ça, il faut faire attention. Là.
Mais c'est être capable aussi d'analyser les joueurs. Tu sais, des fois, je pense que plusieurs fois, je regardais les joueurs et je me disais, tu sais, ils sont tel niveau, mais clairement, ils doivent avoir de la misère à faire des mains en haut d'un mangan. Fait que, tu sais, j'ai pas trop à avoir peur. Là, soudainement, boum, Hanneman dans ma face. C'est comme, OK, je connais pas le joueur, j'aurais pas dû baisser ma garde de main.
Ouais, je pense pas que c'est tant. Comment je pourrais dire ça? Je pense que tu peux faire un mangan à n'importe quel niveau, tu peux faire un animan à n'importe quel niveau. Ce qui va vraiment différencier les joueurs plus forts des joueurs plus faibles, ça va être par exemple si quelqu'un est capable de bâtir sa main efficacement assez rapidement aussi. Ça c'est juste un des aspects, là. On effleure juste la surface. Tu sais, à quel point que tu réussis à te défendre aussi, puis à quel point que tu réussis à aller jouer dans la tête de tes adversaires. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on fait bien au club parce que on est plusieurs à le faire beaucoup, puis à aimer ça. faire en sorte que les autres fassent genre, oh non, j'avais pas vu cette trap-là. Ouais. Puis, je suis tombé dedans les deux pieds directs. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est un amalgame de plusieurs skills que tu acquiers au fur et à mesure qui font en sorte que tu deviens meilleur au fil du temps. C'est pas certain à 100% que tu vas l'avoir là, comme tel. Là. Mais non, c'est ça. Je suis content. Ça a donné vraiment un beau tournoi dans l'ensemble. Là. Puis je me souviens, je m'étais bien amusé dans le Hanshan contre toi aussi. Là. Je sais qu'on avait fait un Hanshan ensemble. Ouais. Tu m'as pas trouvé trop dominant pendant ce Hanshan-là, j'espère. Là.
mais tu vois, je suis encore été troisième, je pense, à ce Hanshan-là.
Ouais.
C'était deuxième. C'était comme dernier au début, mais tu as tout de suite repris la place. Puis moi, je pense que dans cette partie-là, j'avais de la misère à prendre le momentum puis arriver à placer mes mains. Fait que j'étais plus passif. Puis pour moi, troisième dans un tournoi, c'est quand même intéressant parce que ça fait pas perdre trop de ranking.
Ouais.
Mais après, on dirait que ça te met dans une mentalité où tu te dis, ah, oh, troisième, c'est correct. Mais non, le but, c'est d'être premier ou deuxième.
Ouais, non, c'est ça. C'est ben, pas d'être troisième. Encore là, troisième, ça dépend. Ça dépend de comment tu t'approches. Troisième, c'est quand tu as été quatrième, tu as du Hanshan, puis que tu n'as rien gagné, puis tout, tu arrives à la fin, tu dépasses le troisième de peu. Dans ce cas-là, troisième, ça peut être intéressant parce qu'il faut toujours que tu penses au Uma aussi. Le Uma, c'est pour ceux qui regardent à la maison, c'est les points que tu gagnes selon la position que tu obtiens. Donc, ça dépend. D'habitude, c'est en règle WRC, par exemple, c'est plus 15, plus 5, moins 5, moins 15, le premier et quatrième respectivement. Puis le Uma, ça fait vraiment une grosse différence parce que c'est un 10 points net qui va affluer sur ton tournoi directement. Là. Fait que tu veux toujours gagner cette position-là de plus. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce que tout le monde va se battre pour la position. Mais quand tu abordes en sud 3 ou en Hardass aussi, quand tu abordes ces rondes-là, tu veux checker, voir combien de points à peu près qui te manquent pour aller rejoindre la place par-dessus toi. Ou si tu n'es si pas trop loin de la place en-dessus de toi, tu vas essayer au contraire de soit de gagner la main rapidement, soit de ne pas la perdre pour ne pas tomber en-dessous de l'autre joueur là, comme t'as.
C'est vraiment ça que en fin de partie, c'est là où les stratégies deviennent... OK, est-ce que j'ai des possibilités de monter d'une position? Sinon, est-ce que je suis mieux d'essayer de défendre ma position et d'essayer d'empêcher le joueur qui veut me surpasser? Ça fait beaucoup d'analyse. Puis en même temps, tout dépend de ce que tu piges dans ta main au début.
Oui, non, c'est ça. Là. Puis moi, quelque chose que... Ça, je me souviens encore dans ce Hanshan-là. La dernière main, justement, j'étais à 15 000 points, je pense, quelque chose comme ça, de la première place. Je me disais, ah, je veux juste faire une main qui est cool, une main qui a du sens, puis tout ça. Puis j'ai fini par gagner Mangan sur la première place. Puis c'est moi qui ai viré première place, puis j'ai fait genre, wow, ça, c'est une belle surprise. Puis tu sais jamais qu'est-ce que ça peut donner. Là. Puis je pense que c'est ça aussi un petit peu. En quelque part, j'ai dû faire ma luck, puis j'ai eu de la chance que ça fonctionne.
Dans cette situation-là, ça peut quasiment dire que le joueur qui est en première place aurait dû faire attention et essayer de jouer défensivement pour garder sa place.
Oui, ben oui, effectivement. Là. Mais je pense que en quelque part, j'ai eu de la chance. Là. C'est un petit peu un coup du hasard. Là. Puis en quelque part, je suis content aussi. Là. Mais non, c'est ça. Ça a fait une grosse différence. Là. Puis non, c'est ça. Ça a passé proche, toi, à Rochester, de te qualifier pour le WRC. Malheureusement, t'as pas réussi à boucler la boucle. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent comme tel?
Je me serais sûrement plus pratiqué en
avant. Ouais. Non, c'est ça, non, j'avoue que...
Je pense que j'étais un peu dans une down côté Mahjong. J'avais pas joué beaucoup, j'avais des choses personnelles aussi dans ma vie qui rendaient difficile un peu ma concentration par rapport au Mahjong. Qui a fait que quand j'ai joué au tournoi, au début, ça semblait un peu une corvée. Puis tranquillement, j'ai repris la piqûre, puis j'étais comme... Oui, c'est vrai. C'est quoi que j'aime du Mahjong, c'est vraiment le côté compétitif. Après, le tournoi était terminé, c'était comme... Bon, ben...
Ouais, c'est ça. Là, t'as le goût de jouer dans plein d'autres tournois. Là, t'as la pandémie qui tombe, puis t'es genre, bon, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Tu tournes les pouces à la maison, puis tout ça. C'est ça. On fait beaucoup de tournois en ligne aussi, si tu veux. Le prochain, c'est... le 6 et 7 juillet, c'est samedi, dimanche, pas cette fin de semaine, l'autre après. Il y a un tournoi organisé par Luke de Rochester aussi. Là. Je t'enverrai le lien après. Là. C'est ça. Là. Moi, Je voulais parler un petit peu du WRC parce que j'ai mon verre d'eau ici, là, de l'Autriche. Puis, t'as Vienne en plein milieu ici. Là. Fait que, non, c'est ça. Là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ce tournoi-là. Ben, en espérant que ce ne soit pas annulé, là, je ne penserais pas, mais...
Là, ce serait en 2021, peut-être?
À 2021, c'est ça. Okay. Puis s'ils gardent, tu sais, mettons qu'ils font la même date plus un an, ça nous amènerait en août 2021. Est-ce que la pandémie va être réglée à ce moment-là? On ne sait pas, mais...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jeux olympiques 2020,
en plus? Oui, les Jeux olympiques ont déjà été reportés. Ça a été annoncé, ça fait un bout de temps. Ouais. Mais non, c'est ça, ça va être à voir là. On va voir ce que ça va donner. Puis c'est ça, je t'en avais parlé un petit peu tantôt, mais un autre tournoi auquel tu as participé qui a été peut-être différent dans ton expérience comme telle, c'est Salt Lake, le tournoi de qualification pour le WRC justement là, qui s'est passé à Salt Lake City en juin dernier, je pense. Mm-hmm. Ça fait presque un an.
Ouais.
Fait que c'est ça. Parle-nous un petit peu de ce tournoi-là. Comment ça a été, là?
Beaucoup d'excitation au début. C'était le premier voyage en avion depuis vraiment longtemps. Première fois aux États-Unis aussi. C'était dans le West Coast, dans une ville que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment agréable, finalement. C'était une surprise. Et je suis arrivé en avance sur les organisateurs. Ça m'a permis de voir un peu si on allait peut-être jouer. Mais tout le temps, j'étais comme « Ah! Peut-être que c'est dans cette salle-là que le tournoi va se passer!
Ouais.
Oh, peut-être dans cette salle-là aussi! » Je faisais juste comme créer plein de hype pour moi-même, pour me dire quel joueur qui allait être là. J'avais hâte de voir
les joueurs. Ouais, c'est ça. Pour finalement être déçu, là.
J'étais déçu parce que...
Un petit peu, là, mais...
Ouais. Je pense qu'on était seulement 12.
16, je pense. 16. Hein, je me souviens bien. Là. Les chiffres que j'avais vus, c'était ça, 16 participants. Là, puis, c'est dommage. C'est un tournoi qui aurait facilement pu être mieux que ça, là, mais je sais pas... Bon, en fait, je pense que le fait que ce soit dans une ville qui n'ait pas rapport pour plein de monde et que ce soit pas backé par un club local comme tel, là, comme là, c'était backé par USPML qui est basé à New York plutôt. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça n'a pas fait le même effet que ce qu'il aurait voulu, là, probablement. Là. Même pour donner d'autres comparaisons de qualification directe pour le WRC, il y a eu Paris et Londres au mois d'octobre et de décembre, je pense, Londres, respectivement. Ouais. Donc, qui ont eu à peu près une cinquantaine de participants encore là. maudit que c'était le fun. J'étais allé à Paris, là, puis ça, c'était quelque chose là, comme tournoi. Là. C'était le fun de pouvoir... De pouvoir voir un petit peu la scène européenne aussi. Là. Puis il y avait quelques Américains qui avaient fait le chemin aussi. Il y avait moi, mais aussi Edwin, Claire, Pio, David Thor aussi. Puis Daniel Moreno qui en ce moment est pro dans la JPML.
Justement, c'est lui que je pensais que j'allais voir à Salt Lake City, qui était même pas là.
Ouais, non, c'est ça, là, c'est dommage. Mais non, c'est ça, Moreno, c'est vraiment un bon gars, là, Dasuke là, aussi, qu'on l'appelle. Puis lui, il était là, il était venu à Montréal, à mon tout premier tournoi auquel j'ai participé, c'était en 2016. Lui, je pense qu'il était venu en 2015 aussi, mais il a fait 2016 et 2017 à Montréal. Là. Puis, tu sais, à chaque fois que je voyais, j'étais super content. J'étais comme, that's okay, what's up? I'm so happy to see you, blablabla. Puis on jasait pas mal. Là. C'est vraiment un bon gars. Puis, tu sais, à chaque fois que je le revois en tournoi, il y a toujours un petit quelque chose qui se passe, là, comme le ONAO. Il s'était plutôt bien placé, mais il avait fini tout juste en dehors du cut-off. Là. C'était top 4 là, à ce moment-là. Puis moi, j'avais juste comme remonté Puis lui, il avait fini cinquième. Fait que, tu sais, pauvre Dasuke, là. Puis à Paris, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé, là. Il y avait un gars qui était super haut, qui était premier après, je pense, c'est combien de Anshan qu'on avait? 8 pour... On avait quelque chose comme 8 Anshan pour se qualifier. Après le 7e Anshan, tu sais, le gars, il était premier. Un autre gars. Puis là, tu sais, je suis arrivé au gars, puis j'ai fait genre, non, toi, tu restes pas premier, là. Fait qu'on l'a... J'ai joué contre lui au 8e Anshan. On l'a pris, puis, puis à la fin, il restait plus de points, là. Je pense qu'il a fini à comme moins 20 000, quelque chose comme ça, là. Fait que...
Seulement dans votre Anshan?
Seulement dans notre Anshan. Fait que, tu sais, c'est... il a perdu quelque chose comme 45 000 points, plus, c'est moins 15 000 en plus pour le Ouma. Fait que, il est sorti du top 8, puis Dasuke, il a fait le top 8 par la fesse, tu sais, à la 8e place directement, là. Puis il s'est finalement rendu en finale où il a pris la 3e place overall, ce qui est quand même bien, mais c'est beau un petit peu de voir les petits miracles qui arrivent en tournoi quand les deux on est là.
C'est le danger des fois d'être un peu trop show-off au Mahjong. Mm-hmm. À mon avis, il n'était pas show-off, il n'a pas volontairement décidé que je vais être première place et la péter devant tout le monde.
Ouais.
Donc, toute l'attention est sur toi après. Tous les joueurs savent que c'est toi le premier en classement.
Mm-hmm.
Donc, toute l'hostilité va être contre toi directement.
Ouais, c'est ça. Puis, c'est lui, c'est un peu ça qui s'est passé. Là. Ce gars-là qui était en première place, là, il, comment je pourrais dire ça? On a commencé la game, puis il y avait la grosse target sur la tête, la grosse cible. Malheureusement, là, pour lui, je suis désolé. Désolé si tu regardes ce podcast, Brian, rien de personnel. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est juste, c'est des choses qui arrivent, là, puis, tu sais, tout peut arriver en tournoi, là, c'est ça qui est beau aussi, là.
Puis, je pense qu'au tournoi de Montréal, ce qui m'a fait gagner, c'était un peu la surprise de tout le monde, parce que j'étais un nouveau joueur, un peu pour tout le monde, qui est apparu de nulle part.
Ouais, c'est ça, là. T'sais, en fait, t'es pas vraiment un nouveau joueur, mais c'est juste que t'es revenu après un certain...
Je suis un ermite. Je suis un ermite du Mahjong.
Ouais, exact.
Je suis en montagne à pratiquer mes moves tout seul. Mm.
Ouais. Non, mais c'est le fun pour le vrai que tu sois revenu, là. T'sais, c'est... On est une petite communauté, là, puis je suis content que tu nous aies retrouvés. Je sais même pas exactement comment que tu nous as retrouvés, là, après tout ce temps-là.
Je pense beaucoup de recherches sur Internet, puis en même temps, des fois, il y a un peu un côté de gêne à l'intégrer à une nouvelle communauté de personnes qu'on ne connaît pas nécessairement.
Non, c'est
je pense qu'à cette époque-là, vous aviez beaucoup de manières de vous retrouver sur Internet, mais aucune n'avait l'air updatée.
Ouais, c'est ça.
Si vous étiez encore vivant ou pas.
C'est ça, à l'époque, il y avait eu le site web là, qui était plus qui était vraiment pas updaté du tout. Là. Puis là, depuis, on. C'est ça, là. Là, depuis, on a commencé à avoir quand même des petits éléments ici et là qu'on update plus fréquemment, là, comme tel. Le nouveau site pour le tournoi, entre autres, richimontréal.org, on l'a updaté beaucoup. Mais autrement, on a une présence maintenant un petit peu plus forte sur les réseaux sociaux. On a le serveur Discord, on a le groupe Facebook, on a la page Meetup. Fait que, il y a quand même des éléments à gauche, à droite. Puis maintenant, il y a les capsules de M. Mahjong et les podcasts de M. Mahjong. Fait que non, c'est le fun. Non, ben c'est cool. Là. En quelque part, je pense que le plus que on diffuse notre image à l'extérieur, le plus que ça va attirer un petit peu l'intérêt du monde aussi. Là.
Ben c'est, je pense que le Mahjong, c'est pas nécessairement un jeu qui est toujours très accessible pour tout le monde. Mais dès qu'on pogne la piqûre, après, c'est difficile.
Ouais, non, c'est sûr. Là. Ouais. Non, c'est ça. Là. Moi, quelque chose que je voulais commencer à checker, c'est commencer à faire un side event à l'Otakuton. Là, en ce moment, avec la pandémie, il n'y aura pas d'Otakuton, mais autrement, les autres années, ce qu'on faisait, c'était juste on avait juste des tables comme telles où est-ce que le monde pouvait venir jouer comme tel. J'aimerais ça peut-être voir si je peux faire un petit tournoi en ligne cette année.
Exhibition.
C'est ça, là. Autrement, ça aurait été un tournoi exhibition, un petit peu comme, comme Magic the Gathering font aussi. Fait que, tu sais, ce serait à voir, là, mais, tu sais, je fais un petit peu le pont, justement, Salt Lake, tu me disais que c'est dans une convention, là, puis que ça avait pas été à la hauteur de tes attentes comme tel, parce que, justement, tu étais au milieu de la convention, puis le monde n'était pas intéressé par ça plus qu'il faut, là. Puis,
C'était une grosse convention, puis je pense que les gens de la région, il y a beaucoup de gamers, fait que il y avait beaucoup, je pense, d'engouement pour les gens de la région. Puis nous, on était un peu les gens de l'extérieur, il n'y avait personne de Salt Lake City, fait qu'il n'y avait personne dans ce truc-là qui devait vraiment connaître qu'on allait faire ça. On était placés dans un endroit public, fait que c'était le fun, les gens pouvaient nous voir, mais ça l'affectait aussi notre performance. On avait une place de cosplayer qui faisait du karaoké de Disney. C'était une place gigantesque parce que donc l'écho était horrible.
Ouais, ça marche moins bien dans. Ouais, j'imagine. Je pense que plus qu'on en fait, plus qu'on se rend compte que ça devient vraiment un standard d'avoir un tournoi dans une salle fermée. Dans une salle calme où est-ce que le monde peut jouer, puis que la seule voix qui porte, c'est celle de l'arbitre comme tel.
C'est surtout qu'on jouait pour une place au World Championship.
En plus.
Donc tout le monde était vraiment sur les nerfs. Puis la plupart des passants qui venaient à côté, au début, venaient comme super curieux parce qu'ils voyaient plusieurs personnes jouer, puis après, c'était comme « Ah, ils sont les Mahjong. » Ils s'en allaient, ils étaient comme « What? I'm fighting my ass here to get the first place and we're going in like Vienna and then
Ouais, non, c'est ça là. Je pense que le monde, enfin dans une convention, c'est probablement pas le meilleur lieu où est-ce que tu peux avoir un tournoi de Mahjong de toute façon là. Puis c'est quelque chose que c'est quand même une bonne leçon qu'on a qu'on apprend là, pour l'avenir. Puis je pense que il faut juste faire plus attention à ça, puis vraiment faire des tournois, des tournois plus sérieux au moins, là, plus avec du reach, et faire dans des salles dédiées pour ça, avec organiser un petit peu comme c'est au tournoi de Montréal ou au tournoi de Rochester, là, pour donner des comparatifs qu'on connaît.
Le tournoi de Montréal, c'est tellement confortable, je pense, pour les joueurs, parce qu'on est vraiment dans un espace qui est seulement à nous. Je pense que ça permet à tout le monde d'être naturel puis de pouvoir se concentrer.
Ouais, ça fait une grosse différence aussi, là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on veut ramener à chaque année aussi, là. Bon, c'est sûr que pour cette année, encore une fois, je pense que je vais me répéter souvent, là, avec la pandémie, ça va être dur d'organiser ça. Peut-être qu'on pourrait le faire, dépendamment de comment ça évolue d'ici octobre, mais mes espoirs ne sont pas très élevés pour le moment.
Ah, sinon, ce sera un tournoi en ligne. Hein,
ouais, mais...
C'est ça comme ça, mais...
Oui, on peut faire un tournoi en ligne, mais c'est pas pareil. Là.
Non, c'est
ça n'aura pas la même portée, c'est sûr. Là. Mais il y a quand même d'autres clubs qui en font des tournois en ligne ces temps-ci. T'as Chicago qui en a fait un, t'as PML dans la Bay Area qui en a fait un aussi. Ils sont à Berkeley, je pense, si je ne me trompe pas. Je veux pas dire une fausse information encore. En tout cas, pas, ils sont sur le côté est de la baie. Mais non, c'est ça. Ce serait quelque chose qu'on pourrait envisager. Là. Je pense que on n'est pas rendu là, mais on pourrait checker ça. Puis c'est ça. Moi, je voulais passer aussi sur le prochain point. Finalement, je change encore de l'ordre des points. Pas comme le plan que je t'avais dit. Non, c'est ça. Le tournoi, c'est un des gros événements qu'on fait à Montréal. Mais je trouve qu'une des belles initiatives qu'on a eues à Montréal côté Mahjong ces dernières années, ça a été le Renho, qui était ton petit ta petite activité. Ben, en fait, comment je pourrais dire ça? Ton local de Mahjong.
C'était mon projet. Le fait que je regardais beaucoup de vidéos puis de comptes Instagram sur les différents. John So au Japon. Ouais. Je vais essayer de recréer un peu ce feeling-là. Nous deux, on avait découvert que. Ben, toi, tu l'avais trouvé même. C'est au M-Box, c'est ça?
Au Gamebox, il y a des.
Au Gamebox, il y avait des tables
automatiques. C'est ça.
Puis ça m'a vraiment motivé à essayer de trouver, avoir un espace à nous. Et peut-être créer un engouement avec le club, les gens d'extérieur aussi, pour comprendre que là, on se crée notre propre territoire. On a notre propre confort, on a notre propre espace. Puis d'essayer de montrer aussi peut-être tous les avantages d'avoir une organisation peut-être un peu plus lourde par rapport aux parties. Mais en même temps, c'est ça. C'était vraiment un test. Je vais tester, voir si les gens allaient apprécier. Je vais voir si c'était faisable. Clairement, je vois que c'est faisable. Après, est-ce que c'est lucratif? Non.
Mais ouais, non, on n'est pas rendu là. Non, exactement.
C'est très important.
Puis, je pense qu'on n'a pas... Actuellement, on n'a pas la capacité de faire fonctionner un endroit comme ça. À plein régime, ça pourrait venir. Je pense que juste avant la pandémie, justement, on arrivait, ben pas qu'on arrivait à cette capacité-là, mais plutôt que on avait comme un potentiel de croissance qui débloquait un petit peu. Avec, je pense par exemple, j'ai organisé une activité à la récréation où il y a eu 5 tables de personnes.
Oh,
fait que une vingtaine de personnes à jouer au Mahjong, la plupart qui étaient des débutants. Là. Puis ça, c'est quelque chose que je me souviens pas d'avoir vu, à part bien sûr à l'Autochton. À l'Autochton, on avait 4 tables quasiment remplies tous les 2 jours. Mais d'avoir comme ça 5 tables remplies dans un événement one-shot comme ça, je pense que c'est vraiment encourageant. Puis c'est quelque chose sur lequel on peut bâtir pour la suite. Pardon. Puis je pense que n'eût été de cette pause un peu forcée, on aurait facilement pu commencer à avoir au Otaku Manga Lunch. À chaque 2 mardis, je fais un petit event. Puis, ça continue en ligne, là, mais en ligne, ça a pas, je pense que ça n'a peut-être pas la même portée pour l'instant, là, mais je pense que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner en recommençant, mais on aurait facilement pu avoir 2 ou 3 tables à chaque fois, à chaque mardi, là, comme tel, où ça se passait. Ouais. Donc,
pour être venu à l'Otaku Manga Lounge, j'aimais vraiment la vibe. Plein de nouveaux joueurs, plein de gens très intéressés.
Ouais.
Le fait aussi que c'est un safe space, je pense, pour autant les gamers, les otaku, les geeks, whatever, comment on veut se faire appeler.
Ouais.
C'est un safe space où tout le monde se sent confortable.
Ouais, c'est
et
ça.
Et on ne sent pas jugé.
Ouais, parce que, tu sais, en quelque part, c'est bâti autour de cette idée-là. Là. Être otaku, c'est un mode de vie pour certains. Puis c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis je pense qu'il prend une certaine ampleur, que le monde commence à s'ouvrir à ça, puis commence à adhérer à ça aussi. Puis d'avoir un espace comme ça où on peut promouvoir de Mahjong, où on peut arriver avec nos sets de Mahjong, puis jouer comme ça, c'est formidable. Puis, je suis content que ça avait commencé il y a quelques années. Mon contact, un de mes contacts là-bas à l'origine, c'était Max du Otaku Manga Lounge. Mais toute l'équipe est super aussi. Avec le temps, plus que l'événement a grossi, plus que ça a pris de l'ampleur. Puis, maintenant, je connais beaucoup de monde au Otaku Manga Lounge comme tel. Là. T'sais, que ce soit Amé, Kevin, Coralie ou Vanessa ou tu sais, j'en oublie. Puis c'est tout du super bon monde. Puis c'est une super belle communauté. Puis tu sais, je suis content de ce qu'ils apportent au monde otaku aussi comme tel. Donc chapeau otaku Mangalange. Puis c'est une place qu'on aime beaucoup là.
Ouais.
on va verser une petite larme. Non, c'est ça. Là, tout ça pour dire que non, je suis content que on fait quand même des activités puis ça débouche quelque part. Puis c'est sûr que parallèlement à ça, on continue des rencontres de clubs aussi. Là, qui, je pense que d'un côté, c'est bon que les rencontres de clubs aient un aspect plus. Pour les joueurs un peu plus avancés, là, au moins intermédiaires, là, comme tel.
Oui, il y a un certain côté convivial. Moi, je sais que le fait d'être pas venu au club depuis longtemps puis de revenir dans ce nouveau club, c'est-à-dire la version 2.0,
ouais.
ça m'a fait du bien de revoir des visages que je connaissais puis de pouvoir... Pardon, j'ai reçu un message que ça m'avait pas senti. De pouvoir revoir des visages que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Puis,
ouais.
Puis de savoir que je n'étais pas totalement dans une zone nouvelle. Mais en même temps, des fois, peut-être que ça peut paraître aussi épeurant pour certains nouveaux joueurs. Mais je pense que ça dépend de chaque personne. Le ouais, niveau non, est... C'est une manière conviviale de jouer au Mahjong, dans le fond. C'est le fait de pouvoir parler puis jouer au Mahjong en même temps, d'être sérieux, mais de ne pas être trop sérieux en même temps non plus.
Ouais. T'sais, c'est sûr qu'on veut toujours gagner cette main-là. Là. Puis le Tuck Jodel qui arrive, Taniao, 3 Dora, alors come on. Puis... Je donne un exemple, mais ben, j'aurais dû la gagner cette main-là. Là.
J'aurais été plus rapide.
Ouais, c'est vrai. Non, mais... C'est drôle que tu dis ça parce que ça va être comme le thème central, pas Taniao 3 Dora spécifiquement, mais je vais faire un petit séminaire avec le club de New York le 10 juin prochain. Donc sur comment ouvrir sa main là, comme tel. Là, parce que c'est entre autres, ça, c'est une des affaires. Un des trucs que j'ai plus. Avec lesquels j'ai plus expérimenté dans la dernière année, c'est comment ouvrir sa main pour acquérir de la vitesse, justement. Là.
Ouais.
Puis, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fort, plus qu'on pense. Oui, faire une main à 1000 points, t'es comme, oh, ça va juste me valoir 1000 points, fait que je suis mieux de faire une main à 8000 points, un mangan pour que ce soit beau. Mais j'aimerais ça contredire cette affirmation-là en disant qu'en fait, les mains à 1000 points que tu fais, c'est des mains à 8000 points que tes adversaires ne feront pas.
Exact. Mais je pense que d'avoir une bonne balance entre... Souvent, au début, quand on est débutant, on a tendance à toujours vouloir ouvrir parce que c'est le fun, il y a beaucoup d'interactions. Mais en c'est même ça. Temps, on ne comprend pas pourquoi on le fait puis on se retrouve souvent en four-item.
C'est ça. Ben, c'est pas forcément juste four item. C'est plutôt que ce que j'ai vu le plus souvent, c'est qu'on n'a pas de yaku quand on ouvre trop vite au début, là, comme tel. Mm-hmm. C'est sûr. Mais qu'au après, début, quand tu les connais pas. Ouais, vas-y.
Mais après, souvent les clubs, on dirait qu'on va préconiser plus les mains fermées parce que c'est comme ça qu'on atteint peut-être le maximum de capacité de points à acquérir. Mais après, quand on réapprend à jouer vite en tant que joueur intermédiaire, c'est là qu'on découvre toute la subtilité d'ouvrir et à quel point ça peut permettre de changer le rythme et même des fois de reprendre possession de la partie.
C'est ça, là. Puis je pense que ça peut faire quand même une bonne différence dans certains cas. Là. Puis c'est drôle, moi, j'ai fait un petit peu d'expérimentation comme ça. C'est pas juste... oui, Taniao, c'est la main ouverte comme par défaut, là, entre guillemets, là. Que le monde vont décider d'aller pour Taniao, puis ça va être ça. Puis à l'inverse, un Yakuhai, mettons un dragon vert, blanc, rouge ou ton vent du tour. selon ce qui est disponible dans ta main de départ, là, comme tel. Mais j'ai commencé à expérimenter un petit peu, à jouer avec d'autres types de mains ouvertes, là, comme partir sur une main ouverte en Itsu, partir sur une main ouverte en Sanchoku, partir sur une main ouverte en... j'essaie de penser à comme d'autres... je pense que j'avais fait un moment donné un Sanchoku Doku en main ouverte, puis que... Ou c'était une main ouverte?
J'avais, les Jin-chan j'avais aussi, mélangé avec Toy-Toy. Les Chanta sont intéressants.
Ouais, aussi, là.
Je trouve que Itsu en main ouverte, ça peut être vraiment impressionnant. Puis, OK, t'as pas peut-être le potentiel de points, mais si tu vois que tu l'as déjà ou que tu as le potentiel de le faire, tu sécurises tes pièces en faisant des chi. Et après, ben, tu peux même l'attendre sur une attente unique ou même un pong, on sait jamais, tu sais, un shampoing. J'ai oublié les termes.
Ouais, shampoing, c'est quand t'as deux, t'attends sur deux paires, là, comme tel.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, c'est ça. Je pense que ça peut faire quand même une bonne différence. Puis, oui, effectivement, c'est des mains auxquelles on pense pas forcément, mais quand tu as la shape de la main pour aller pour, tu es quasiment mieux de faire ça, là. Ou du moins d'essayer de tendre faire ça. Puis, je me souviens d'avoir vu récemment sur Internet comme un pro japonais qui disait, t'sais, si tu peux prendre le fast train, là, fait que.
C'est pas faux, là. Il y a comme un peu ce côté-là de honte où c'est comme, pour être un vrai joueur de mahjong, il faut être patient puis à gagner avec des grosses mains. C'est toujours intéressant de jouer avec des grosses mains, mais si t'es pas assez rapide puis qu'il y a un joueur qui te bat juste en faisant 1000 points, mais c'est tant mieux pour ce joueur-là parce que ça se peut qu'après il prenne une main et qu'il fasse comme, il chantaine déjà sur Aneman, tu sais.
Ouais, non, c'est ça, là. Ça peut arriver, là. Puis, good. Mais non, c'est ça, là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on a moins tendance à faire au club. Parce que, tu sais, justement, on a cette culture-là un petit peu de vouloir faire des plus grosses mains. Justement, Olivier avait dit une fois 5-2 or bust. Fait que, tu sais, une main à au moins 3-40. Sinon, il veut rien savoir. Puis, c'est correct, c'est sa façon de jouer, mais je pense qu'en quelque part, de jouer des mains rapides, ça vaut la peine aussi des fois. Puis, surtout en tournoi, le plus rapide que tu es, le plus de chances que tu as de gagner la main, là, effectivement. Là.
Ouais, on voit tout ce côté-là que les joueurs stressent. Fait que des fois, en faisant beaucoup d'appels, tu peux te retrouver des fois à vraiment frustrer des joueurs, puis ces joueurs-là vont se mettre à faire des erreurs. Quand toi, t'es comme, moi, je vais juste pour Montagne haut, je fais Montagne haut, round, yes, c'est fini, prochaine main.
Ouais, c'est pas pire, là. C'est ça, là, je check le temps fait un petit peu, là. Je vais aborder tout de suite le dernier sujet que je voulais, avec lequel je voulais m'entretenir, là. Fait que c'est sur pas la définition, mais l'ésotérisme un petit peu, là, la signification de chaque tuile. Oh, avec la petite musique en arrière, j'aime ça, là.
On est dans la section ésotérisme.
Ouais. Yes, j'aime ça, là. Je pourrais quasiment mettre un petit son en arrière. Là. J'édite même pas la vidéo, je fais juste la mettre sur YouTube. Là. Non, c'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est une approche du mahjong complètement différente de ce que d'autres personnes ont. Il y a beaucoup de personnes qui vont par la probabilité, il y a beaucoup de personnes qui disent, mettons, tu peux faire telle main ou c'est mieux que tu ailles chercher tel type de yaku comme tel. Mais quand tu m'as sorti ça la première fois, j'ai fait genre, hey, c'est bien cool, là. Genre, tu sais, le un rond qui est une perle, par exemple.
Ouais. Puis, de comprendre les significations dans le fond, peut-être symbolique de certains signes, ça a donné que mon ancienne conjointe était très dans l'ésotérisme. Donc, j'avais beaucoup de livres disponibles qui m'ont permis de lire plusieurs choses, que je voyais des liens avec le mahjong et aussi des liens avec des sciences occultes, entre parenthèses. Comme l'idée des quatre djinns, dans le fond. Chaque djinn étant aussi un titan ou un archange dans différentes religions. Mm-hmm. On peut les revoir aussi dans le Mahjong avec les quatre joueurs qui sont les quatre points cardinaux.
Ouais, c'est
ça. Donc, ça donne l'impression un peu que les joueurs, dans le fond, sont quatre forces de la nature qui jouent une partie.
Mm-hmm.
Pour quelle raison, j'en ai encore aucune idée, mais à mon avis, peut-être sûrement pour le plaisir. Ouais,
j'espère, là. Puis, non, c'est ça, tu sais, c'est le fun. En pensant à ça, tu sais, chaque point cardinal représente un petit peu une saison aussi ou une certaine symbolique par rapport à ça, là. Ah, tu vas nous chercher un...
J'ai ce livre qui m'a permis justement de trouver beaucoup de choses par rapport à cette forme de mm-hmm. de science occulte, entre parenthèses.
OK.
Je dirais que j'ai commencé par, comme tout le monde, à regarder c'était quoi les pourcentages des choses qui fonctionnaient le plus, puis les stratégies de base. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est juste un petit peu de flavor par-dessus le Mahjong qui peut être intéressant. Est-ce que ça fonctionne ou pas? J'ai l'impression que des fois, on se crée des rituels qui servent à recréer des procédés scientifiques sans nécessairement les comprendre. Je pense
ouais.
que c'est un peu ça la différence.
Oui, peut-être. Mais en même temps, je trouve qu'il y a, certaines des tuiles. Ben, en fait, quand tu m'as expliqué certaines significations de différentes tuiles, ça m'a donné... pas que ça m'a ouvert les yeux comme tel, mais que ça m'a fait comprendre certains des trucs qu'on voit dans le Mahjong. Par exemple, il y a un vieux Yaku qui existe que quand tu fais Haite, donc gagner sur la dernière tuile du mur, puis que c'est un rond, donc la perle, il appelait ça quelque chose comme piger la perle dans le fond du lac. Puis, c'est beau, juste dit comme ça, là. Puis ça, ce Yaku-là, comme tel, vaut Mangan. Je pense qu'il est dans les
Yaku. Dans le fond, la perle, c'est la lune. C'est la lune qui reflète.
Mm-hmm.
C'est la lune qui reflète sur un cours d'eau. Puis dans le fond, la personne va chercher la lune en prenant par le reflet. Mais c'est comme le 2 de bambou, ça représente le canard. Dans le côté ésotérique, ils disent que le canard vient tout le temps en paire. Puis j'ai remarqué que souvent, si j'avais un 2 de bambou, si j'attendais pour le prochain 2 de bambou, j'allais souvent avoir une paire de 2 de bambou.
Mm-hmm.
Ouais. C'est pas de moyen d'expliquer, là. C'est juste un hasard ou c'est moi qui se fais des peines des...
C'est la faute des canetons polissons. Peut-être. Mais non, c'est ça, là. Il y a une des tuiles dont j'aimais bien la symbolique, là, c'est le 6 de bambou, là, la rivière, là, où ça représente un petit peu l'eau. Là. Puis, tu sais, depuis que tu m'avais dit ça à l'époque, là, quand que l'Adora, c'est un 6 de bambou, je me dis un petit peu « go with the flow », comme tel. Là.
Ouais, c'est ça.
Puis là, ça me permet juste de me rappeler « OK, donc c'est le 6 de bambou qui est l'Adora », là. Puis c'est le fun, là. C'est... Un petit truc de plus. Ça ferait par ailleurs, pendant que je pense à ça, ça ferait un bon titre pour le podcast, là, Go with the Flow.
Je sais pas, c'est comme intéressant de voir que c'est pas juste des chiffres et qu'il peut avoir des fois des images derrière. Le 8 de cercle, si on plisse les yeux fort, 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 on peut voir des patterns d'un tigre blanc sibérien.
Mm-hmm.
Le 8 de cercle, c'est le tigre. Le 7 de bambou, c'est la tortue. Mm-hmm. Donc, la septième tige de bambou, dans le fond, serait la tête de la tortue.
Ouais,
c'est toutes des images aussi qu'on voit parfois quand on joue à des jeux de Mahjong. Dans certains jeux, quand on fait des runs, Mangan, souvent, ça va être un tigre. Aneman, ça va être un... Non, quand tu fais Yakuman, c'est un dragon. Il va y avoir le phénix, qui souvent, ça va être les Aneman.
Mm-hmm.
Des tortues, parfois.
OK. Ah, c'est cool, quand même. Là. Puis, ces temps-ci, en ligne, il y a une tuile en particulier qui a été élevé au grade de demi-dieu, là, en quelque sorte.
Ah ouais, je savais pas.
Plutôt de mime, là. Je suis pas sûr c'est lequel entre les deux. Peut-être un mélange, s'il y a lieu. C'est le 3 de bambou.
Ah ouais, le 3 de bambou.
Le 3 de bambou.
La grenouille.
C'est la grenouille. C'est ça que j'avais vu sur Internet. J'étais comme grenouille ou crapaud peut-être. Mais je n'étais pas sûr. Là. Je voulais en parler avec toi pour être sûr. Mais non, c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est le 3 de bambou qui est sorti pour être comme la tuile un petit peu fétiche de tout le monde. Mais,
ah ouais, voilà. Mais le 3 de bambou, dans le fond, ce que ça représentait, c'est la grenouille regarde la lune. Donc, c'est supposé de représenter l'inatteignable, mais aussi le rêve. Dans le fond, pour la grenouille, d'un jour, c'est de pouvoir sauter jusqu'à la lune, de pouvoir l'atteindre. Donc, à mon avis, ça doit vouloir représenter beaucoup... comment on peut dire ça? Pas la motivation, mais les motivations des différents joueurs. Oui,
pas forcément la motivation, mais le désir de réussir, le rêve. Mais je dis le rêve, mais plutôt l'objectif, là, comme tel. Là.
Je suis sûr qu'on a le mot, mais...
Ouais, on y pense, mais on le trouve pas, là. Mais je t'enverrai ça, là. Il y a comme... attends, je vais juste me noter les affaires qu'il faut que je t'envoie, là. Meme trois sauts. C'est ça, je t'enverrai ça. Il y a comme un meme avec le triangle Illuminati, puis tout, là. C'est beau, là.
Le 3, c'est le chiffre magique aussi en chinois.
Okay.
Dans le fond, les chiffres chanceux, le meilleur chiffre en chinois, c'est le 9, parce que c'est 3 fois 3.
Okay.
En numérologie aussi, puis ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, tout vient dans l'idée qu'il y a 4 saisons, il y a 4 cycles. Donc, dans le fond, on a le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Le troisième serait le plus fertile. Et après, on tomberait en hiver ou dans le cycle de la mort, qui serait le 4.
Ouais, on sait qu'en
chinois, 4, ça va vivre.
C'est ça, là, chus, c'est mort, là, je pense, ou je sais pas si je l'ai bien prononcé, là. Ça se peut très bien.
Puis, c'est comme la blague.
C'est 4, mais...
Oui, il me reste 1%, fait que ça se peut...
Ah, je pense que on a perdu Lorenzo, là. C'était quand même une bonne façon de finir ça. Donc, voilà. Sur l'ésotérisme du Mahjong, là. Je pense que pour la suite, c'est ça qui va clore l'épisode. Donc, un gros merci d'avoir été là pour l'épisode 2 de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong, avec Lorenzo qui a fini la batterie de son téléphone. Donc, on se voit au prochain épisode. Salut!